Elle vit au merveilleux pays de l'état d'hypnose et découvre les trésors cachés dans votre inconscient. Elle rit, elle aime, elle respire, elle creuse, elle transforme et transitionne et rit encore. Et elle sait plus que tout que c'est juste une croyance.
Bonjour, bonjour, ici Jeanne-Hélène et bienvenue à mon podcast « C'est juste une croyance ». Le podcast où on parle que changer ses croyances, ça change ses émotions, ça change ses actions et évidemment, ça change nos circonstances de vie. Bienvenue à cette saison 2. Vous avez peut-être remarqué ou peut-être pas du tout que j'ai été absente pendant un an. En fait, en dernier, j'avais plus rien à dire. J'avais l'impression que j'étais redondante et je me suis dit « vaut mieux arrêter ». Je m'étais déjà dit « quand j'aurai plus rien à dire, j'arrêterai ». J'ai arrêté. Mais je me suis pas tellement sentie bien. Il y a des fois, je me suis sentie coupable. Il y a des fois, je trouvais que j'aurais pu me forcer, sortir de ma zone de confort, faire des épisodes quand même. J'ai eu toutes sortes de pensées. Mais j'ai fait confiance que finalement, les choses finiraient par arriver au bon moment et sont arrivées lors d'une conversation avec une amie. Alors, je vais au restaurant avec une amie et on se met à discuter de la raison d'être et de spiritualité, deux sujets. Et là, ça clique dans ma tête. Ça devient super clair dans ma tête que c'est ce que je vais faire. J'écoute notre conversation, puis je lui dis, c'est exactement ça ma saison 2. Elle me dit, qu'est-ce que tu veux dire? Je dis, oui, ça va être ça ma saison 2 du podcast. Donc, pour cette saison 2, j'ai des invités à chaque épisode. Et en fait, l'invité va choisir un des trois sujets. Donc, les trois sujets sont l'authenticité, la raison d'être, la spiritualité. Donc, l'invité va choisir un des trois sujets et nous allons parler de ce sujet-là puis comment ce sujet-là s'illustre dans leur vie actuelle, dans leurs croyances, dans leur propre chemin à eux. Et ce que je vais faire, c'est que dans le premier épisode, dans celui d'aujourd'hui, je vais mouiller. Dans mon coaching que j'ai fait dernièrement, parce que vous savez que même nous, les coachs, les hypno-coachs, enfin, les accompagnateurs, peu importe, on a aussi besoin de support et d'aide. En fait, je pense qu'on en a même souvent plus besoin parce que on peut pas donner si on n'est pas nous-mêmes plein. Et la coach avec qui je travaille m'a vraiment fait voir que ce besoin que j'ai d'authenticité, puis là, je vais en parler du mot, puis là, je vais vous dire que le mot me tape sur les nerfs, c'est la réalité, je vais vous en parler. Mais ça va être l'authenticité de la saison 2, OK? L'idée, c'est que j'ai besoin, cette partie de moi qui est là, qui est bien présente, que je sens à l'intérieur de moi, qui est comme cette espèce d'essence, a besoin d'avoir une voix, a besoin de s'exprimer. Peut-être que c'est ça l'année de silence, c'est ça la maturation que j'ai pu avoir. Donc, on va commencer par celui-là, tiens, l'authenticité. Pourquoi le mot me tape sur les nerfs? C'est qu'en fait, on l'entend partout, puis à toutes les sauces, puis franchement, je trouve que parfois, ça veut pas dire grand-chose. Je me pose souvent la question, dans le monde d'aujourd'hui, dans un monde où on est hautement influencé à chaque parcelle de vie dans laquelle on est, à chaque fois qu'on est en interaction avec quelque chose, il y a une influence culturelle dans laquelle on est incroyable. Et avec toute la polarisation de plein de choses qui se passent dans le monde, les gens sont imprégnés de plein de choses actuellement. Comment est-ce qu'on peut être authentique? Et là, tout le monde dit, ah, oh, moi, je suis authentique. Puis là, j'entends ça, puis je me dis, waouh, comment ils font? Et qu'est-ce que ça veut dire au fond? Parce que il y a une partie de nous qui est influencée par la culture, qui est influencée par le milieu dans lequel on grandit, le pays où on grandit, le sexe où enfin on va parler. Puis dans un des épisodes, on va parler des genres, justement. Donc, on est influencé par tout ça. Ça forme une partie de notre pensée, de notre interprétation du monde. Alors, comment être authentique? Je vais tenter, en fait, je me positionne aujourd'hui, puis avec mes invités, je vais en apprendre davantage. Et à la fin de la saison, j'espère me prononcer de façon différente. J'ai hâte de voir comment ma pensée va avoir évolué, les nuances que je vais apporter à cette idée d'être authentique. Donc, peut-être que vous aussi, vous êtes tanné d'entendre ce mot-là. Peut-être que pour vous, il résonne autrement et que vous avez trouvé une façon d'exprimer votre authenticité de façon saine pour vous et peut-être parfois de façon plus tumultueuse. Mais je suis vraiment très curieuse de savoir comment les gens autour de nous, comment les gens présentement qui clament, qui sont authentiques, comment ils sont arrivés, puis qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Parce que peut-être que moi, j'entends ce mot-là avec ma propre interprétation et qu'ils ont une interprétation totalement différente. Donc, au monde des croyances, tout ce qu'il y a des croyances au sujet de l'authenticité, ça me fascine et parfois ça m'énerve. OK, pour être honnête, il faut toujours se poser des questions sur les choses qui nous énervent. Donc, le deuxième sujet, c'est la raison d'être. Et c'est comme ça que ma conversation avec mon ami est arrivée, en fait. C'est qu'on parlait de la raison d'être. Et je lui disais, écoute, c'est incroyable, les gens m'appellent aujourd'hui parce qu'ils sont malheureux, parce qu'ils trouvent pas leur raison d'être. Ils se sentent malheureux. C'est en colère, malheureux, c'est un problème, c'est un enjeu, j'ai pas trouvé ma raison d'être. Je peux pas te dire, puis on le sait, c'est clair, là, on voit plusieurs publications, puis même des films comme exemple Blue Zone ou d'autres qui parlent vraiment à quel point est-ce qu'avoir une raison d'être, exemple, ça a un impact sur la longévité, ça a un impact sur le bonheur, etc. C'est une chose qui semble, beaucoup de données semblent converger pour ça, mais vers cette direction-là. Mais est-ce que ça veut dire que le fait de ne pas l'avoir trouvée ou qu'elle soit pas gigantique, est-ce que, ou gigantesque, je devrais dire, ah, ça, quel mauvais anglais, quel mauvais calque que j'ai fait, là. Gigantesque, si c'est pas gigantesque, ça fonctionne pas. Si c'est pas plus gros que nature, si ça impacte pas des milliers de personnes, c'est pas une raison d'être. Donc, moi, ma posture là-dessus, en fait, c'est que si on est malheureux parce qu'on cherche la raison d'être, c'est contre-productif. Ça devrait pas, la quête d'une raison d'être devrait pas nous rendre malheureux. En fait, ça, c'est une croyance que j'ai. Je pense on pourrait l'aborder avec curiosité pour soi, pour les autres. Et aussi, pour moi, la raison d'être, elle peut être simple. Elle n'a pas besoin d'être tonitruante, elle n'a pas besoin de prendre toute la place, elle n'a pas besoin d'impacter des milliers de personnes. Notre raison d'être, elle peut être très locale, près de nous, simple. Elle peut être dans notre famille, elle peut être dans notre cercle d'amis, elle peut être dans une cause, elle peut être dans autre chose, elle peut s'exprimer à travers nos talents, à travers l'écriture, à travers plein de choses, à travers être un employeur qui permet à des gens de travailler. L'idée, ça n'a pas besoin d'être, comme on dit en français, dans ta face, ça n'a pas besoin d'être hyper gros. L'idée, c'est de se reconnecter. Souvent, un truc pour commencer dans cette quête de raison d'être, c'est d'aller voir quand on était enfant, qu'est-ce qu'on aimait faire. Cette semaine, je disais à quelqu'un, ben ces temps-ci, moi, je suis bien heureuse parce que toute l'année, j'ai fait de la décoration. J'ai emménagé dans un nouveau nid. Je suis partie de zéro. C'était super le fun. Et j'ai également, j'enregistre. Donc, je fais des enregistrements tout le temps. Alors, dans chaque séance, hein, je fais un enregistrement où est-ce que je fais un sommaire de la séance avec la personne qui est la reprogrammation. Et je disais, quand j'étais enfant, c'est ce que je faisais, j'enregistrais ma voix et je posais des questions-réponses, questions-réponses, un peu comme si j'étais une psy là dans le temps, c'est ce que je voulais faire quand j'étais enfant. Et je faisais aussi des méditations à mes frères, à ma sœur, dans leur lit, puis là, je leur disais de se détendre, tout ça, quand ils rentraient de l'école. Et je décorais ma chambre, je redécorais ma chambre, je lisais beaucoup. Donc, je me retrouve beaucoup dans ces activités-là présentement, de façon, de d'autres manières, à une autre échelle. Donc, commencez par des choses commencez votre quête ou votre réflexion par quelque chose que vous aimiez faire quand vous étiez enfant. Cassez-vous pas la tête. La première chose qui vous vient à l'esprit, c'est souvent la bonne. Puis, ça veut pas dire que parce que j'aimais décorer, que je vais devenir une décoratrice d'intérieur puis que ça va être ma passion. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la décoration? Il y a la créativité. Il y avait d'aller chercher des objets dans la maison puis de les replacer à d'autres endroits. Donc, c'est plutôt de pousser puis de voir qu'est-ce qui me plaisait dans cette activité-là. C'est quelque chose que je fais beaucoup sous hypnose, à aider les gens à aller retrouver ce qu'ils aimaient quand ils étaient enfants, puis le traduire, qu'est-ce que ça veut dire en 2023, comment ça pourrait s'exprimer dans leur vie en 2023. Mais si vous êtes malheureux parce que vous n'avez pas de raison d'être, Aussi parce que, interrogez-vous, est-ce que je suis malheureux parce qu'elle n'est pas grosse, grosse, grosse? Est-ce que je suis malheureux parce que je veux répondre aux attentes des personnes, de la société, etc.? Qu'est-ce qui me rend malheureux là-dedans? Et est-ce que j'en ai peut-être pas déjà une, mais c'est juste que je veux pas la reconnaître ou la voir parce qu'elle n'est pas spectaculaire ou peu importe? Ça, c'est ma posture là-dessus. Et la dernière, c'est sur la spiritualité. J'ai pas encore trouvé une définition de la spiritualité qui m'appelle, qui me convient, qui me dit quelque chose. Mes parents étaient très spirituels, le sont toujours, dans leur définition à eux. Donc, j'ai leur définition à eux, j'ai leur façon à eux de voir la spiritualité. Mais je trouve que dans le monde actuel spirituel, c'est comme une espèce de nouvelle religion ou une espèce de nouvelle approche où est-ce que soit t'es spirituel, soit tu l'es pas, soit t'es évolué, soit tu l'es pas, t'es in ou t'es out. T'sais, c'est comme, ça devient comme un peu une clique. Et t'as les gens qui sont spirituels et évolués, puis t'as les autres qui ont pas encore compris. Donc ça m'achale un peu, ça m'agace. Et j'écoutais dernièrement un podcast, celui du docteur Amani, et également une émission, un reportage Netflix sur les Twin Flames, les sœurs jumelles, les âmes jumelles, peu importe. Et ça m'a scié les jambes, à vrai dire. Et ça a résonné tellement avec ce que j'ai... En fait, ça a mis des mots sur ce que j'avais vraiment envie de communiquer, qui est certaines de ces approches dites de spiritualité, là, dites de nouvelle spiritualité, ou peu importe. Là, j'utilise ce mot-là parce que c'est le premier que j'ai, puis c'est celui qui me vient, mais peut-être c'est pas un mot approprié, puis j'espère que mes invités vont m'en offrir d'autres. Le mot, donc il y a des gens qui restent dans des relations toxiques sous prétexte que c'est évidemment leur flamme jumelle, ou d'autres enjeux du genre qu'on entend dans le monde spirituel. Ceci étant dit, j'ai des amis qui sont... Et j'ai eu une coach dans le passé qui était très, très, très spirituelle et vraiment dans ce monde-là et dans le monde un peu même ésotérique et qui est une personne super terre à terre et comme on dit, avec beaucoup de jugement puis plein de choses qui me rejoignent. Mais la spiritualité ou le monde spirituel d'aujourd'hui, je trouve que ça prend une proportion. C'est un marché de milliards de dollars, mais c'est pas juste l'idée du marché, c'est l'idée de qu'est-ce que ça fait et comment ça tient les gens parfois dans une posture qui, vue de loin ou parfois vue de près, me donne l'idée que c'est pas tout à fait sain ou en tout cas que c'est pas nécessairement aidant pour vivre une vie plus libre et plus heureux et plus calme et plus... plus centré. Puis là, je vais utiliser le mot authentique peut-être, hein? Plus authentique dans le sens que cette petite partie de toi qui est vraiment toi, qui s'exprime, qui veut s'exprimer, cette petite partie de toi que tu laisses s'exprimer, à qui tu permets d'exister inconditionnellement. Est-ce qu'elle s'exprime dans le carcan d'une idéologie plus spirituelle? Donc, je sais que c'est un débat chaud, mais je choisis ces trois sujets-là parce que je veux vraiment faire évoluer ma pensée. Et je me dis que si je veux faire évoluer ma pensée, je suis persuadée que je suis pas la seule, qu'il y a beaucoup de gens comme vous, comme mes invités, qui aussi veulent faire progresser ou élargir ou enrichir leur pensée face à ces trois sujets. Alors voilà, c'est la saison 2 de C'est juste une croyance. J'ai commencé à enregistrer des épisodes. J'avais fait une introduction, mais l'ampleur que ça prend maintenant que j'ai 3 épisodes d'enregistrer avec des invités, je voulais absolument enrichir mon introduction. Donc, j'ai triché un peu. J'ai enregistré l'intro après 3 épisodes. J'ai réenregistré l'intro après 3 épisodes. Et parce que là, je me sens vraiment groundée dans cette saison 2. Je me sens vraiment ancrée dans le projet et je voulais prendre le temps de faire un épisode 1 qui mettait le contexte pleinement. Voilà. Alors, j'offre un 30 minutes gratuit si jamais vous voulez aller fouiller dans les concepts qu'on a parlé aujourd'hui ou d'autres concepts. Et comme vous savez, jusqu'au prochain épisode, c'est juste une croyance.